VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chez Robin Dorcy et Salwa Jafari.
Bienvenue à l'édition de ce mercredi 11 mars 2015, à la une ce soir.
Les écoles et les universités de N'Djamena fermées jusqu'à nouvel ordre. Le gouvernement tchadien réagit au lendemain de manifestations violentes entre forces de l'ordre et les étudiants qui protestaient contre le port du casque pour motocyclistes.
Au Mali, une réunion de la rébellion à dominant Touareg au nord du Mali a débuté aujourd'hui à Kidal, dans l'extrême nord-est du pays. Au menu des discussions, l'accord de paix d'Alger, déjà paraphé par le gouvernement.
Réaction au lendemain du verdict contre l'ancienne première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, condamnée à 20 ans de prison.
À l'international, les forces irakiennes réussissent une percée à Tikrit. L'armée est entrée dans la ville aujourd'hui après 10 jours de combat contre les djihadistes de l'État islamique.
Et le secrétaire d'État américain John Kerry demande au Congrès de donner son feu vert à une intervention militaire en bonne et due forme contre l'État islamique.
Nous aurons aussi également nos segments sur l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Au Tchad, nous vous en parlions hier, les échauffourées ont opposé les élèves et les forces de l'ordre. Les étudiants manifestaient contre le port du casque imposé aux motocyclistes. Des manifestations qui ont viré au drame. Il y aurait un mort parmi les manifestants et plusieurs blessés. Le gouvernement a ordonné la fermeture jusqu'à nouvel ordre des écoles et universités à N'Djamena, la capitale. Explication Bagassi Koura.
La manifestation des élèves a fait au moins un mort lundi, selon le gouvernement tchadien. Depuis le 1er mars, un arrêté du ministère de la Sécurité et de l'administration du territoire oblige les motocyclistes à porter un casque. Les étudiants qui dénoncent l'augmentation du prix des casques depuis l'entrée en vigueur de cette mesure sont descendus dans la rue lundi pour manifester. Selon l'AFP, la manifestation a été violente, les élèves ayant incendié des véhicules et bloqué l'accès de plusieurs établissements scolaires de la capitale. La manifestation a été réprimée par les forces de l'ordre, police et gendarmerie, qui ont notamment fait usage de gaz lacrymogène. Selon le porte-parole de la police nationale, le commissaire Paul Manga, un jeune est mort au cours de ces échauffourées. Mais des sources hospitalières qui citent l'AFP ont de leur côté fait état de 3 morts et plusieurs blessés.
Au Gabon, la grève des enseignants s'est poursuivie aujourd'hui, malgré les appels du président Ali Bongo à la reprise des cours. Le chef de l'État gabonais affirme avoir accédé aux principales revendications des enseignants. La plupart des écoles et lycées de la capitale étaient pourtant déserts ce mercredi, selon les journalistes de l'AFP. Les fonctionnaires sont entrés en grève début février pour réclamer des révisions salariales.
36 localités ont été reprises au groupe Boko Haram dans le nord-est du Nigeria depuis le début d'une offensive régionale le mois dernier. C'est ce qu'affirme aujourd'hui le gouvernement nigérian. Selon un porte-parole cité par l'AFP, ces succès sont dus aux coopérations et alliances avec les États voisins Cameroun, Tchad et Niger.
En République centrafricaine, un membre de l'ex-coalition Seleka et ancien ministre de Michel Djotodia, le général Mahamat Osman Mahamat, a été arrêté hier à Bangui et placé en garde à vue au service des recherches et investigations. Des armes et des munitions ont été trouvées en sa possession. Réaction d'un ancien ministre du gouvernement Djotodia, Christophe Gazambetti, au micro de notre correspondante à Bangui, Melvin Aurélie Caudreau. Et une réunion de la rébellion à dominant Touareg du nord du Mali a débuté aujourd'hui à Kidal, dans l'extrême nord du pays. Objectif, se prononcer sur l'accord de paix d'Alger déjà paraphé par le gouvernement, indique l'AFP, qui cite des participants à cette rencontre. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette émission.
Au Mali, toujours, la famille de 2 mineurs arabes lynchés à mort à Gao dans le nord du pays a reçu les condoléances présentées en personne par le Premier ministre. Les 2 jeunes, je vous le rappelle, ont été tués il y a 3 jours. On les avait pris pour des poseurs de bombes. Malgré les condoléances, ils ne sont pas encore officiellement lavés de tout soupçon. En Guinée, le pouvoir et l'opposition guinéenne affichaient aujourd'hui leur désaccord au lendemain de l'annonce des dates des prochaines élections présidentielles et locales. Le premier tour de la présidentielle est fixé au 11 octobre 2015. Quant aux locales, elles seront organisées fin mars 2016. L'opposition ne voit pas cela de bon œil, elle qui exigeait l'organisation des locales avant la présidentielle. Nous ne pouvons pas accepter qu'une période supplémentaire d'une année soit ajoutée au mandat déjà illégal et illégitime des délégations spéciales, a indiqué à l'agence France Presse son porte-parole Aboubacar Sylla.
Et en Tanzanie, en deuil aujourd'hui, plus de 40 personnes sont mortes dans le centre du pays dans la collision entre un bus et un camion conteneur. Une annonce de la présidence tanzanienne, le bus parti de Mbeya se rendait à Dar es Salaam, à quelques 800 km à l'est. Le camion venait en sens inverse. Il s'agit là de l'accident le plus grave en Tanzanie depuis 2006.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Après une offensive qui a duré 10 jours, l'armée irakienne est enfin à Tikrit, la ville natale de l'ex-dictateur Saddam Hussein. Une étape importante, bien évidemment, pour Bagdad, qui avait, rappelons-le, perdu la ville en juin dernier. On peut très bien imaginer l'euphorie aujourd'hui parmi les troupes après cette première victoire à Tikrit. 30 000 hommes ont pris part à cette campagne militaire. Les détails avec Jacques Aristide.
Des combats difficiles, mais les troupes irakiennes ont pu pénétrer dans le quartier de Qadisiyya et ont pris le contrôle de l'hôpital militaire de Tikrit, d'après un haut gradé des forces gouvernementales. Après avoir tenté d'entrer dans la ville à maintes reprises ces derniers jours, l'avancée des soldats irakiens aux côtés des unités de mobilisation populaire, notamment composées de combattants chiites, est lente, d'après le même militaire, car le terrain, dit-il, est piégé avec des bombes placées autour de la ville et des snipers de l'État islamique. Environ 30 000 soldats sont déployés dans le cadre de cette offensive de l'armée irakienne, laquelle est encadrée par des conseillers iraniens. Ailleurs dans le pays, l'État islamique n'en démord pas. Le groupe a mené ce même mercredi une attaque coordonnée à Ramadi dans l'ouest de l'Irak avec 7 attentats suicides à la voiture piégée. Au moins 10 personnes ont été tuées et 30 blessées selon les premiers bilans. Ramadi, chef-lieu de la province d'Al-Anbar, est l'une des bases de la fulgurante percée des djihadistes en Irak. Depuis des mois, les troupes irakiennes tentent de les en déloger mais n'y sont pas encore totalement parvenues.
Et sur un autre front, l'État islamique a lancé une offensive majeure aujourd'hui pour tenter de conquérir la ville de Ras el Ain, située dans le nord de la Syrie, près de la frontière avec la Turquie, information rapportée par une ONG citée par l'agence France Presse.
Et puis sachez que le secrétaire d'État américain John Kerry a pressé le Congrès aujourd'hui d'autoriser formellement le président Barack Obama à mener la guerre contre ce groupe en Irak et en Syrie. La résolution donnerait au président un mandat clair pour conduire un conflit armé contre leur organisation. Depuis 6 mois, de nombreux élus, démocrates et républicains, contestent une guerre illégale et exhortent le Congrès à assumer son rôle constitutionnel de déclarer la guerre.
Et puis cette nouvelle accusation contre le régime de Bachar el-Assad, une ONG basée à New York accuse ses troupes de crimes contre l'humanité pour avoir tué 610 médecins et travailleurs médicaux depuis le début du conflit en 2011. Ce rapport rédigé par Physicians for Human Rights a été présenté aux Nations Unies ce matin, a souligné ce chiffre particulièrement alarmant. 139 des 610 travailleurs médicaux tués ont été torturés ou exécutés.
Le Liban, toujours sans président. Le Parlement libanais a échoué pour la 20e fois à élire son chef d'État. Le fauteuil est vacant depuis plus de 9 mois en cause des divisions entre les deux principaux camps politiques. Pour rappel, le mandat de l'ex-président Michel Sliman a expiré le 25 mai 2014. Faute de président, c'est le gouvernement présidé par Tamam Salam qui est responsable de tous les pouvoirs exécutifs.
Washington souhaite renforcer ses positions en Ukraine. Les États-Unis vont bientôt livrer des drones d'observation et des véhicules de transport Humvee pour aider le pays à faire face à l'insurrection séparatiste dans l'Est. Une annonce faite par un responsable américain.
Ici aux États-Unis, en Floride plus précisément, les équipes de recherche ont retrouver les restes humains sur les lieux de l'accident d'un hélicoptère militaire. 7 Marines et 4 membres d'équipage étaient à bord. L'armée avait perdu la trace du Black Hawk près d'une base militaire, plongée dans un épais brouillard.
L'Utah pourrait devenir le seul État américain à recourir de nouveau à des pelotons d'exécution pour les condamner à mort après que ses sénateurs ont approuvé hier un projet de loi en ce sens. Pourquoi, on pourrait se le demander? Eh bien, les produits d'injection létale utilisés habituellement seraient souvent en rupture de stock. Camille Grosdidier nous en dit un peu plus.
Le texte qui a été approuvé par le Sénat de l'État doit être transmis au gouverneur de l'État, Gary Herbert, qui devra le promulguer. Les partisans de la mesure affirment que la mort par peloton d'exécution est une façon plus humaine d'exécuter un condamné à mort qu'une injection létale. D'autant que les États-Unis souffrent de pénurie des médicaments nécessaires à ces injections. Récemment, plusieurs détenus d'État tels que l'Oklahoma, l'Ohio ou encore l'Arizona ont subi des tentatives d'exécution douloureuses suite à des injections létales bâclées à cause notamment de nouvelles combinaisons de médicaments. Mais les critiques font valoir que la méthode du peloton d'exécution est un pas en arrière qui rappelle le Far West.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco ce soir avec Nathalie Barge.
Un Boeing 777 du Gabon est immobilisé depuis 2 semaines à Orly en France, indique l'AFP. Il a été saisi le 25 février à la demande d'une entreprise suisse réclamant 8 millions de dollars d'impayés. En attendant l'audience judiciaire dont la date n'a pas été précisée, la saisie a été maintenue par les juges selon une source portuaire. Antoine Lawson, directeur de Info Plus Gabon, rappelle que l'immobilisation d'un avion gabonais à l'étranger n'est pas une première.
C'est déjà le cas à Paris, à Roissy précisément, du premier Boeing 747 de la compagnie Air Gabon qui s'appelait Président Lyomba, qui avait été immobilisé 1 semaine avant la fête nationale du Gabon qui généralement se déroule le 17 août de chaque année. Le ministre des Finances était parti donc en France avec l'argent nécessaire justement pour débloquer la situation.
C'était Antoine Lawson, directeur de Info Plus Gabon, joint à Libreville. Chute spectaculaire de l'euro face au dollar cette semaine avec le début des achats d'actifs de la Banque Centrale Européenne. Le début lundi du programme d'assouplissement quantitatif de la BCE a déclenché des mouvements incroyables sur les marchés, a commenté un analyste financier cité par l'AFP. La monnaie unique est ainsi tombée ce mercredi à 1,05 dollars pour 1 euro, son niveau le plus faible depuis mars 2003.
Voilà, c'était la Minute Éco. Merci.
Et en sport ce soir, on va parler de la suite de la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans au Sénégal. La deuxième journée dans le groupe A, c'est ce soir. Le Nigeria menait 2-0 face au Congo. Le Nigeria conforte sa position en tête de groupe grâce déjà à sa victoire 3-1 contre le Sénégal dimanche. Les Lionceaux de la Teranga tenteront de se racheter après la déroute du premier match à 19h30 GMT, mais ça ne sera pas facile face aux éléphantaux de Côte d'Ivoire. Et avec Bagassi Koura, on va parler de la suite des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions en Europe.
Oui, le PSG se déplace à Chelsea. L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Laurent Blanc, a expliqué que son équipe devrait prendre ses responsabilités contre les Blues après un match nul, 1-0 à l'aller, qui l'oblige à attaquer et marquer. Quant au Shakhtar Donetsk, il a réalisé un petit exploit à l'aller, 0-0 face au Bayern en Ukraine. Ce soir, au match retour, la pression sera davantage sur les Allemands.
Et si l'on parlait basket, Bagassi Koura, bonne nouvelle pour le club de la capitale fédérale des États-Unis.
Oui, Washington a battu Charlotte 95-69. Et peu de chance pour les Californiens de Sacramento face à Atlanta, 105-130. Nette victoire de Boston sur les Heat de Miami, 100-90. Victoire 101-91 de Memphis sur Chicago. New Orleans bat Milwaukee, 114-103. Défaite de New York contre Denver, 78-106. Golden State Warriors ont battu Phoenix, 98-80. Et enfin, sur 27, victoire des Clippers de Los Angeles face à Minnesota, 76-89.
Alors, Bagassi, si l'on revient un peu sur cette Coupe d'Afrique des moins de 20 ans au Sénégal, et à quoi faut-il s'attendre aujourd'hui plus précisément?
Oui, d'abord, le score correct, c'est 3-1 face au Congo pour le Nigeria.
Donc le Nigeria menait par 2-0, score final maintenant, c'est 3-1.
Le score final, c'est 3-1,
merci
parce qu'il y a
précision.
Eu 2 buts entre-temps l'un de chaque côté. Et donc, il faut s'attendre quand même à un match difficile pour les Sénégalais parce qu'ils doivent jouer contre la Côte d'Ivoire. Depuis que la Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique des Nations au niveau des seniors, eh bien, je pense que chaque génération de footballeurs ivoiriens voudrait faire la même chose que leurs aînés.
Merci, Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Cher Hubin Dorcil et Salwa Jafari en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale ce soir, le Mali, où une réunion de dirigeants traditionnels de la société civile et de groupes rebelles du Nord a débuté aujourd'hui à Kidal.
L'objectif, Salwa, c'est de décider si oui ou non il faut signer le pré-accord de paix conclu le 1er mars à Alger. Mais tout le monde n'est pas d'accord au sein de la mouvance Touareg. Pour une analyse, Nicolas Pineau a joint André Bourgeot, directeur de recherche au CNRS.
Le contexte renvoie à une turbulence politico-militaire, on peut présenter les choses comme ça, avec l'attentat de Bamako, mais aussi avec des roquettes qui ont été lancées sur la base de la MINUSMA à Kidal. Ce contexte-là n'est pas tellement rassurant ni sécurisant, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on ne sait pas très bien, lorsque le Mouvement National de Libération de l'Azawad dit qu'il va consulter sa base. Sa base, on ne sait pas ce qu'elle est, y compris en termes d'espace ou de territoire, mais y compris aussi en termes d'influence sur l'ensemble des populations Touareg. Le MNLM ne représente que lui-même. Il a beaucoup de Touareg ont dénoncé ses objectifs et les méthodes. C'est qu'on sent bien qu'il y a une pression de la communauté internationale, que ce soit du côté du médiateur algérien, du côté des Français, du côté de l'Union européenne et aussi du côté des États-Unis d'Amérique, qui font pression pour que la coordination des mouvements de l'Azawad paraffe le projet.
Que pensez-vous des dissensions entre le nouveau Aménokal, Mohamed Aguintala, et les autres groupes Touareg, notamment concernant la question de l'autonomie?
C'est très révélateur de l'absence de stratégie commune. Mais vous faites référence à l'Aménokal, M. Mohamed Aguintala. Il est en désaccord fondamental avec son frère cadet, M. El-Khabas Aguintala, qui a été le numéro 2 dans Nsaret Dine. Dans ce contexte-là, on a tendance à dire qu'en définitive, celui qui est susceptible d'exercer une certaine autorité serait, c'est inconditionnel, Iyad Agrali, qui a été le fondateur du groupe salafiste djihadiste Nsaret Dine, mais qui a été aussi un des leaders, on peut dire charismatiques, des rébellions des années 90, et qui ensuite a eu une fonction diplomatique, plus particulièrement en Arabie Saoudite. Quelle est son influence réelle sur le Mouvement national de libération de l'Azawad?
Au-delà de la signature de cet accord, est-ce que finalement le nord du Mali ne va pas rester une zone de non-droit?
Si le document est paraffé, va se poser le problème des conditions d'application du contenu de l'accord, et c'est loin d'être un succès. Je crois que tout le monde dit que bon, il faut cet accord parce que c'est une avancée incontestable, mais les conditions d'application sont loin d'être réunies. Donc on peut penser qu'effectivement, tout ce septentrion malien demeure une sorte de zone de non-droit, mais qui est ouvert aussi à tous les trafics. Depuis la partition effective du territoire malien, les fraudes, les drogues illicites, que ce soit le hashish ou bien la cocaïne, ont continué à être acheminées et à être contrôlées. Me semble-t-il, il y a des forces politiques et armées, disons, qui n'ont pas tellement intérêt à ce que le septentrion redevienne une zone de paix, parce que ça risquerait de contrecarrer des intérêts extrêmement importants sur le contrôle de la cocaïne.
On écoutait André Bourgeot, directeur de recherche au CNRS à Paris.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
L'action continue après le verdict du procès de Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. L'ancienne première dame ivoirienne a été condamnée à 20 ans de prison ferme pour, entre autres, atteinte à la sûreté de l'État. Ses avocats dénoncent cette sentence et parlent d'un procès politique. Et on vient de l'apprendre, le gouvernement ivoirien a démenti aujourd'hui toute interférence dans le procès. Docteur Kwame Christophe, membre de la Convention de la société civile ivoirienne, affirme pour sa part que ce procès n'a pas répondu à toutes les attentes.
Le premier constat global de toute personne de la société civile suivant ces événements, c'est que ce procès s'adresse à un camp, le camp pro-Gbagbo, alors que la Commission nationale d'enquête avait donné dans ses conclusions que les deux camps étaient responsables des tueries dans la crise post-électorale. Le deuxième point de ce procès, c'est que ce procès n'a pas poursuivi c'est pro-Gbagbo pour les crimes de sang pour lesquels les victimes attendent depuis bientôt 4 ans. Ce procès a poursuivi la majorité de ces personnes-là pour des crimes d'atteinte à la sécurité de l'État et d'autres divers crimes qui sont plutôt des crimes politique. Le troisième point, c'est que les charges requises contre la personne étaient des charges différenciées.
Alors, vous dites que Mme Gbagbo n'a pas été jugée pour les crimes de sang. Pourtant, le RDR, le parti au pouvoir, félicite le fait que justice a été rendue aux victimes.
Nous n'avons pas la même appréciation de ce qui nous a été de lire, de constater, c'est que les crimes de sang n'ont pas fait partie des reproches qu'on faisait au Pro Gbagbo pour ce procès. À partir de cet instant-là, moi, en tant que membre de la société civile, je dis que pour le moment, on n'a pas encore touché aux victimes. Surtout qu'il y a des organisations de la société civile qui sont parties civiles dans ce procès pour les crimes de sang.
Ouais. Alors, vous l'avez dit, le procureur avait requis 10 ans et le juge est allé au-delà. Comment vous trouvez cela?
C'est pour cela que d'aucuns parlent de procès politique, d'aucuns parlent de la justice des vainqueurs.
Alors, est-ce qu'on peut dire que ce procès n'a pas vraiment fait avancer les choses vers justice et réconciliation, ce que demande tout le monde depuis la crise électorale?
Alors, il ne faut pas mélanger les choses. La réconciliation se base sur de la justice et de la vérité. Ça a été un procès important pour nous en tant qu'organisation de la société civile parce qu'on a laissé les justiciables se défendre, on a laissé les avocats argumenter. Personnellement, j'en tire une satisfaction pour le fait que déjà pour la première fois, on soit allé jusqu'à la fin d'un procès où les parties ont eu l'occasion et le temps de s'exprimer. Quand on descend un peu plus bas, on reste sur notre faim parce que les victimes et les organisations de la société civile qui sont parties civiles des victimes n'ont pas vu les chefs d'accusation de crimes de sang faire partie de ce procès.
C'était la voix du docteur Kwame Christophe, membre de la Convention de la société civile ivoirienne, joint par Bagassi Koura.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Nous en parlions en début de journal. Le Tchad a décrété la fermeture des écoles et des universités à N'Djamena en raison des dernières manifestations qui ont opposé les forces de l'ordre et les étudiants. Au cœur de cette vague de violence, une polémique assez singulière, il faut le dire, le port du casque chez les motocyclistes. Alors, pourquoi ce refus? Pourquoi les étudiants sont-ils les premiers concernés? Pour quelques éléments de réponse, Timothée Donangmaï a joué à N'Djamena, Daouda El Hadj Adam, secrétaire général de l'Association pour la défense des droits des consommateurs.
On a pris une mesure à un moment donné et le gouvernement même a laissé tomber cette décision et subitement la décision est reprise sans une information suffisante des citoyens sur d'abord les conséquences des accidents de la route. Malheureusement, il n'y a pas eu cette préparation et du coup, donc, lorsque cette mesure est prise, donc les gens ont interprété à leur manière et surtout que sur le marché national, on a assisté à une flambée du prix du casque. Le gouvernement n'a pas fixé même une norme des casques parce qu'on trouve des casques de différentes sortes et dont certains ne protègent pas véritablement les citoyens et certains citoyens essaient de s'approprier juste pour éviter les tracasseries policières et surtout quand on sait que la police de circulation vraiment ne lâche pas les gens et leur crée des surprises de bon matin en allant au boulot ou en allant à l'école, on les interpelle. Donc voilà un peu cette situation vraiment de mal préparation qui aussi est due à une absence de système de transport collectif public au niveau du Tchad. Je pense que c'est ça le vrai problème pour nous.
Vous parlez de transport public. Il y a bien des minibus qui assurent le transport à N'Djamena, non?
C'est des minibus vraiment dont les conditions vraiment laissent à désirer et c'est exploité par les privés et qui ne respectent aucune règle. Donc il y a une sérieuse crise de transport urbain dans N'Djamena. Les taxis ne répondent à aucune norme, des vieux 504 TGO qui ne répondent à aucune norme. Et donc les prix sont exorbitants. Et puis vous avez le deuxième système, c'est les minibus, donc qui sont exploités et qui vraiment sont pas du tout confortables pour des élèves, pour même les fonctionnaires qui doivent aller dans les lieux de travail. Et puis vous avez une race de mototaxis qui ont émergé à cause effectivement de l'absence d'un système de transport public digne de son nom. Et voilà, on espère faire de N'Djamena la vitrine de l'Afrique ou de l'Afrique centrale. Mais on ne doit pas vraiment laisser cette ville sans système de transport public où vous avez des bus vraiment bien spacieux, confortables, pour que les gens puissent se déplacer d'un point à un autre de la ville de N'Djamena. Et là, ça fait vraiment défaut et ça constitue un vrai besoin Et donc, les géants sont obligés pour se déplacer de s'acheter une moto et qui, on sait, ce n'est pas un moyen de transport viable, on sait, avec tous les risques que cela représente. Et donc, vous retrouvez dans une grosse ville avec plein de motos, alors que nous pensons que le Tchad a les moyens de pouvoir se doter les citoyens avec toute l'implication des municipalités, d'avoir un système de transport viable. Et c'est le vrai problème à ce niveau. Et ce n'est pas le port du casque seul qui va résoudre le problème.
Daouda El-Hadj Adam, secrétaire général de l'Association pour la défense des droits des consommateurs, qui nous parlait de N'Djamena.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, comment les nouvelles technologies sont en train d'aider l'Afrique à relever ses nombreux défis? L'Internet est-il abordable dans votre pays? A-t-il changé votre vie? Vos témoignages sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h15.
Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme Zeid Raed al-Hussein a condamné hier la recrudescence du nombre d'attaques criminelles contre des personnes atteintes d'albinisme en Afrique, principalement au Malawi, en Tanzanie et au Burundi. Au cours des 6 derniers mois, au moins 15 personnes ont été enlevées, blessées, mutilées ou tuées. Nathalie Barge a joint à Bujumbura le président d'Albinos sans frontières Burundi.
Vraiment, ça fait honte, ça fait mal. Ça fait... On n'a pas de mots à qualifier ces massacres qui se passent. Dernièrement, j'ai entendu en RDC et au Malawi aussi. Jusqu'aujourd'hui, même les gens qui sont autour de la frontière avec la Tanzanie, les Albinos qui sont là, ils ont beaucoup de peur. Ils disent que ça ne va pas. Ce qu'on attend de l'autre côté, chez nous, c'est difficile. Ça fait peur, ça fait peur.
Il y a plusieurs cas où des membres de la famille sont responsables de ces crimes. Est-ce que vous connaissez encore ce type de situation au Burundi où la famille va jusqu'à tuer ou faire tuer son propre enfant?
La première cas, on l'a eu en 2008, c'était des gens qui disaient que la première fois qu'il a disparu, c'était à cause des parents. Mais les massacres se sont produits chez nous, on n'a pas encore identifié exactement s'il y a des complicités des parents. Mais des complicités des voisins, oui, ça va. Là, on les trouve. Quelqu'un qui vient de la Tanzanie pour tuer un albinos, c'est-à-dire qu'il y a des complicités. Chez nous, depuis la première massacre, c'était une disparition d'un enfant albinos. Août 2008, c'était la complicité des parents. Au mois de juillet 2011, on a fait des condamnations, c'était à Ruigi, où il y avait au moins 13 personnes qui étaient condamnées. Il y avait des différentes peines. Mais malheureusement, c'est que jusqu'aujourd'hui, tous ces gens-là sont évadés de prison. Il n'y en a que 4, d'après ce que je connais, qui sont encore dans la prison de Ruigi.
Quelle a été la peine la plus lourde?
La peine à vie, une prison à vie. Il y avait d'autres qui étaient pour 20 ans, une année, 3 ans, de différentes. Mais la plus, c'était 2 personnes qui étaient condamnées.
C'est une déception au Burundi parce qu'il n'y a pas si longtemps que cela, le Burundi était plutôt satisfait, disons, de constater qu'il y avait quasiment plus de ces crimes et finalement ça a recommencé au mois de décembre.
Oui, c'est ça. Même, par exemple, nos voisins, les Tanzaniens, c'est là où ça commence chaque fois. Alors si les Tanzaniens prennent des mesures, ces gens-là se rabattent vers le Burundi. C'est ça le problème qu'on a. Chez nous, même si ces massacres se sont passés, c'est à cause de notre voisin, le Tanzanie. Parce que la Tanzanie, les gens, là, si ça recommence, il fait des grandes sécurités, il met des gens dans un seul endroit. Et puis les gens, là, quand ils ne trouvent pas des moyens pour tuer en Tanzanie, ils se rabattent vers le Burundi. C'est pour ça qu'on avait une année de calme. Mais malheureusement, c'est le constat qu'on fait. On voit qu'avant les élections, en Afrique, chaque fois, il y a des albinos qui sont massacrés partout.
Kassim Zungu, président d'Albinos sans frontières, Burundi.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mercredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
À la une ce soir.
Au Tchad, le gouvernement vient d'ordonner jusqu'à nouvel ordre la fermeture des écoles et universités à N'Djamena suite à des manifestations contre le port du casque imposé aux motocyclistes. Manifestations qui ont fait au moins un mort.
Au Mali, une réunion de la rébellion à dominant Touareg du nord du Mali a débuté aujourd'hui à Kidal, dans l'extrême nord-est du pays. Au menu des discussions, l'accord de paix d'Alger, déjà paraffé par le gouvernement.
Merci Michel Joseph et Alfredo Santos à la technique.
Présentation Saloua Jafari et Chérubin Dorsil. Ainsi va le monde. Merci de votre attention.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Dakar, sur 102 FM. Top Congo Kinshasa, Nostalgie FM Ouagadougou, 99.8 FM, Korogo, Côte d'Ivoire. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.